KCIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. KCIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respecter l'écart sanitaire et porter un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Where are they going? Where are these ballots going? Who's getting them? Who is not getting them? Little section that's Republican. Will they be stolen from mailboxes as they get put in by the mailman? Will they be taken from the mailmen and the mailwomen? Will they be forged? Who is signing them? Who's signing them? What, are they signed at a kitchen table and sent in? Will they be counterfeited by groups inside our nation? Will they be counterfeited maybe by the millions by foreign powers?
Tous ensemble, tous confinés, un été différent, un été pas comme les autres. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon univers d'été. Et oui, à chaque jour, je découvre les merveilles de ces sites légendaires tels que Saint-Malo, Rennes, Brest, l'une des capitales européennes de la mer et surtout, l'une des plus belles rades de France. Bienvenue à Popourri Show, émission produite toujours en mode virtuel, remixée par DJ Delora, animation Eric Adair. Et je suis avec vous jusqu'à 13h, bien sûr, malgré la distance. Merci à nos partenaires RFI, RTL, TV5 Monde, France 24, Alain Babineau, nouveau partenaire, collaborateur, chroniqueur. Il est du centre de recherche Action sur les relations raciales, ancien agent de la GRC. Merci beaucoup d'être des nôtres. Les organisateurs du Mois du Créole de Montréal, ils seront des nôtres tout au long du mois d'octobre à ne pas rater. People's Press à l'île Maurice, ça bouge ces temps-ci. Il y a eu toute une manifestation hier. Un beau bonjour à tous ces gens qui nous écoutent régulièrement. Maître Peter Biro qui nous revient avec une nouvelle chronique. Les recettes de Babette de Rosière, qui ne la connaît pas. Elle est autrice, femme d'affaires, chef cuisinière française, également animatrice de télévision. Elle nous présentera peut-être une petite recette typique de la Guadeloupe. Madame Ledoux, qui se met dans la peau de Miss France, il faut le faire. Chantal Avechambre, qui nous invite à balader dans un coin du Canada. et tous ses auditeurs, les amis, collaborateurs dans l'ombre, qui nous font confiance et nous fournissent des informations pertinentes, et aussi de tout ce qui se trame dans l'univers des communautés francophones. Oui, je dis bien. Tout un univers, n'est-ce pas, des francophones d'ici et d'ailleurs, hein, merci mille fois. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, je vous invite, madame, monsieur, à visiter, revisiter ce groupe mythique qui célébrait son 52e anniversaire dimanche dernier dans des conditions assez particulières. Covid-19 oblige, que voulez-vous. Tabou Combo, 52 ans déjà, c'était dimanche dernier. Tout un show d'anniversaire sans pareil sur le web. On y va! Et oui, ils étaient des milliers braqués, branchés sur leur écran pour célébrer les 52e anniversaire, 52 ans, de Tabou Combo, le groupe haïtien qui a donné au compas son premier tube international très connu à Miami, à Paris, à Montréal. Ils sont même venus à Toronto. Bravo à Choubouf et Fanfan Thibaut. Ils étaient superbement en forme. C'était tout un spectacle, tout un succès. Et oui, nous suivons de très près les récents événements au Mali. On nous dit que la junte militaire y est pour un bon bout de temps. Une nouvelle association pour le soutien des enseignants-enseignantes francophones issus de la diversité va bientôt voir le jour en Ontario. C'est toute une nouvelle. Rendez-vous via Zoom le samedi 29 septembre 2020, si cela vous intéresse. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler à cette émission. La campagne présidentielle américaine est bien entamée. Jusqu'où ira la révolution Trump et quelles sont les surprises que nous réservent le camp Biden et Trump d'ici le 3 novembre? Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises d'ici au mois d'octobre. C'est à suivre. Alors, chaque semaine, nous aurons l'occasion d'en discuter avec des experts, des analystes politiques, des chercheurs, des professeurs, des journalistes. Si cela vous intéresse, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. Une décision du gouvernement français qui ne fait pas des heureux, malheureusement. La chaîne France O a vécu ses dernières heures à l'antenne dimanche dernier. Les voix s'élèvent dans les Antilles sur cette fermeture. Je dirais même qu'il y a colère un peu partout dans les Antilles. C'était la seule, l'unique vitrine télévisuelle de l'outre-mer qui mettait en valeur les cultures des peuples antillais. Babette de Rosière, animatrice de télé et femme d'affaires, elle est aussi chef de cuisine française. Elle vit à Paris. Elle a écrit une lettre ouverte dans plusieurs journaux, grand quotidien français, la semaine dernière. Nous aurons aussi la visite de Madame Ledoux, les tops des chansons francophones au Québec, et le tout rythmé, bien sûr, au son de Tabou Combo. Est-ce que l'heure a sonné pour Justin Trudeau? Changement de garde à la tête du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole est devenue, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, c'était tout un marathon, le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Est-ce que cela veut dire que notre cher Premier ministre Justin Trudeau doit bientôt confronter l'électorat canadien? Après les crises et les magouilles, sa popularité en prend un coup. Notre correspondant spécial, homme d'affaires, avocat, professeur, nous revient, maître Peter Bureau. Bonjour, j'espère que tout va bien. Je sais que vous êtes très très occupé ces temps-ci avec le lancement de votre livre, d'ailleurs qui met en relief la démocratie dans nos États. Déjà un best-seller, me dit-on, et je vous recommande, madame, monsieur, d'aller faire un tour sur notre site popourishow.com. Vous aurez tous les liens nécessaires. Allez, faites un devoir, achetez le livre de maître Peter Bureau. Alors, monsieur Bureau nous présente aujourd'hui sa réflexion ayant pour thème l'heure de renouvellement à Ottawa. Mais cela viendra-t-il? C'est la question qu'il se pose. À vous, Peter Bureau.
Alors que le Canada continue de naviguer dans les eaux périlleuses de la pandémie mondiale et de la récession économique qui en résulte, il affronte également des mers orageuses chez lui. À la suite de l'émergence du scandale We Charity, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a d'abord adopté une posture défensive, affirmant qu'il n'y avait aucun acte répréhensible. Cela a été suivi par des mesures évasives en réponse à une enquête agressive du comité parlementaire sur la question, ce qui a entraîné la démission du ministre des Finances Morneau et la prorogation du Parlement, interrompant ainsi les travaux du comité. Le gouvernement évite ainsi l'examen public et la responsabilité au moment même où cela est le plus urgent. La gestion gouvernementale d'une économie très à la limite, la gestion de la crise de santé publique la plus critique depuis des décennies et, dans ce contexte, un scandale éthique ajouté à la liste des scandales antérieurs que ce premier ministre avait déjà invité, mettent l'avenir de ce gouvernement en question. À la suite de tout cela, il semble y avoir un changement de garde pas si subtil, tant du côté du gouvernement que de l'opposition. Du côté gouvernemental, la nomination de Chrystia Freeland en tant que nouvelle ministre des Finances, tout en conservant son poste de vice-premier ministre et de présidente de l'équipe d'intervention COVID du gouvernement, rend explicite ce que beaucoup avaient observé et anticipé depuis un certain temps. À savoir que c'est effectivement Mme Freeland et non M. Trudeau qui dirige le pays. Ce rôle est inévitable et destiné à devenir formalisé lorsqu'elle prendra finalement la relève en tant que leader, chef, tôt ou tard. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'île, le Parti conservateur du Canada a un nouveau chef à la barre, Erin O'Toole. Une députée de Toronto remplace l'échec Andrew Scheer et renouvelle maintenant, on s'y attendrait, l'intensité, sinon aussi le calibre, des critiques et des contrôles dirigés contre le gouvernement. Monsieur O'Toole, en quelque sorte un disciple de Stephen Harper, mettra au défi le Parlement minoritaire actuel, soit de répondre plus efficacement à la série de crises actuelles, soit de tomber et de faire déclencher des élections générales par le gouverneur général. Le gouvernement actuel est devenu trop complaisant et semble avoir pris le soutien des autres partis pour acquis. Il est devenu trop suffisant pour rapport à ses normes éthiques. Il a pratiquement abandonné ses promesses majeures concernant les objectifs d'émissions de carbone, les initiatives d'énergie alternative, les affaires autochtones, la réforme démocratique et bien entendu l'éthique. Il est vraiment temps de se renouveler. Mais cela viendra-t-il? Peter Biraud, correspondant spécial, Potpourri Show, CIUT FM.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le bois.
Adrabe la cosa, ding et dong.
Non, le temps.
Ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez pas pour essayer. L'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. C'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous. Et comment ça se passe chez vous cette année? En télétravail ou en présentiel? En quoi la crise de la Covid-19 a-t-elle changé votre rentrée? Allez, dites-moi tout. Dites-moi où vous êtes. Écrivez-moi à Potpourri. @cut.fm. Covid-19 oblige, cette année, beaucoup d'Européens, de Canadiens, de Français vont délaisser l'avion. Beaucoup préfèrent le camping car. Ah oui, camping car. Pour voyager, explorer leur propre pays. Et aussi, c'est une découverte. Hein. Beaucoup de gens ne connaissent même pas des endroits les plus merveilleux, historiques, parce que, pour différentes raisons, ils ont jamais pensé à visiter, explorer leur propre pays. Que voulez-vous? Alors, Covid-19 oblige, beaucoup préfèrent rester cloués chez soi ou prendre le risque de voyager, visiter son pays. Le Canada regorge de sites, des endroits historiques extraordinaires, et je dois ici remercier chaleureusement notre nouvelle collaboratrice Chantal Véchambre qui chaque semaine nous partage sa passion et ses découvertes de voyage. Merci Chantal. Aujourd'hui, notre guide, notre historienne, chef, amoureuse et passionnée de l'histoire, nous fait découvrir un lieu historique national de Port-Royal. Port-Royal, en Nouvelle-Écosse. Chantal, bonjour.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de tourisme historique et retrouver Champlain au premier temps de l'Acadie. Nous sommes en 1605 à Port-Royal, au bord de la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, toujours. Donc exactement à l'opposé de Lunenburg où nous étions dimanche dernier. Champlain était arrivé avec l'expédition de Dugadamont en 1604. 80 hommes qui s'étaient d'abord installés sur l'île Sainte-Croix pour se protéger d'attaques éventuelles. Mais le premier hiver a été long et terrible, isolé par la glace, pas de bois de chauffage, pas d'eau potable, nourriture inaccessible, même l'alcool et le cidre qui gelaient. 35 hommes sont morts, principalement du scorbut, et très peu ont accepté de rester avec Champlain, maintenant seul en charge de la colonie. Les rescapés se sont installés en face, sur la rive, en attendant d'autres colons. C'est ainsi qu'est né Port-Royal, proche de ce qui est aujourd'hui Annapolis Royal. pour l'hiver suivant, Champlain a eu une idée de génie. Ce funeste hiver lui avait fait comprendre l'importance d'une nourriture de qualité, mais aussi de la convivialité. Vous savez, maintenir le moral des troupes, occuper les longues soirées d'hiver. Et il a créé le premier club social en Amérique du Nord. L'ordre du bon temps, l'ordre de la bonne humeur. Une cinquantaine de gars qui tenaient les casseroles chacun leur tour pour cuisiner un super dîner pour tout le monde. La région était riche en gibier, poissons et herbes sauvages. Mais une certaine solennité était de mise. Le maître d'hôtel faisait le maître de cérémonie et ouvrait le dîner en arborant le fameux collier de l'ordre. Les cuisiniers préparaient le repas, d'autres, tels des comédiens, commentaient le menu, présentaient les plats avec emphase, portaient des toasts et prononçaient des discours. Tout ça dans une mise en scène savamment étudiée. Et cela a marché au moins tout le premier hiver à Port-Royal, le temps que la colonie s'étoffe encore. Mais au fait, qu'était venu faire l'expédition de Dugas-Demont dans ce coin d'Amérique du Nord ? Quand il s'agit de trouver les Français au Canada dans ces années-là, suivez la morue ou le castor. Au début du XVIIe siècle, la France avait besoin de poissons, de beaucoup de poissons. Les jours maigres représentaient quasiment la moitié de l'année, selon les nouvelles règles de l'Église catholique. Quant à la fourrure et au feutre, ils étaient très en demande aussi, suite à la disparition du castor en France. Dugas-Demont avait obtenu d'Henri IV le monopole de la traite des fourrures sur cette côte atlantique qu'on appelait déjà l'Acadie, en échange d'y amener des colons au nom du royaume de France. Champlain connaissait la région et ses habitants. Il fut donc du voyage et c'est lui qui a su créer et entretenir des relations fructueuses avec les habitants des lieux, donc les Micmacs. Les Français étaient là pour la fourrure, les autochtones avaient besoin de métal pour presque tout, flèches, récipients culinaires, bijoux, pour se défendre, chasser, se nourrir, se parer. Un vaste troc s'organisa. Et surtout, la nouvelle France était née. Et voilà pourquoi on trouve des petites habitations en gros rondins robustes au bord de la baie de Fundy, reconstruites bien sûr à l'identique depuis le temps, ce temps qui semble s'être arrêté. Des pots de bêtes au mur, des bouquets d'herbes séchées qui pendent au vaisselier, les belles assiettes en étain qui trônent sur la table en bois massif, des fauteuils imposants. Champlain à Port-Royal, c'est une histoire parmi toutes celles de la Nouvelle-France. L'Acadie, c'est comme un grand livre d'histoire, toujours grand ouvert. Et même si Champlain partira en 1608 vers Québec, tout ne s'est pas arrêté là, loin s'en faut. Chantal Véchambre, pour Popourri Chaud. Sur CIUT FM.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous.
Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison, moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle, je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock.
RFI. Toute la diversité du monde.
CIUT 89.5 Toronto. France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Vous êtes Zouk et uniquement Zouk. Écoutez Tropic Zouk, la web radio de Tropic FM. Tropic Zouk pour les zoukers nés.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prise de parole, Educ Nation, Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Été 2020 à CUT 89,5 FM, alerte Covid-19. Merci encore pour vos nombreux messages suite à notre émission de la semaine dernière sur les 60 ans d'indépendance de certains pays africains. Bonjour chaleureux à tous les auditeurs de Montréal, de l'île Maurice, de Melbourne. J'espère que ça va bien, que les choses s'améliorent à Victoria, à Melbourne, en Australie. Quelques manchettes de nos médias partenaires rapidement. Coup d'État au Mali, les militaires proposent une transition de 3 ans. Congo-Brazzaville, l'ancien président Pascal Lissouba est décédé en France lundi dernier à l'âge de 88 ans. Il avait dirigé le pays de 1992 à 1997 avant de perdre le pouvoir à la suite de la guerre civile. Coronavirus, les mesures de restriction se multiplient dans le monde. Cette pandémie a fait, je vous rappelle, plus de 800 000 morts depuis la fin de décembre 2019. De la presse canadienne, des étudiants d'écoles de commerce de l'Ontario affirment que certains de leurs collègues sont ouvertement racistes et que la direction des écoles ne fait rien pour endiguer le problème. Selon Raza Ressa, étudiante à la Schulich School of Business de l'Université York, la discrimination et le racisme sont également présents sur son campus, sur le campus de York. Voilà une nouvelle qui est assez accablante, je pense, pour le campus de l'Université York. À quelques semaines du retour en classe, plusieurs questions demeurent en suspens en Ontario. Sous la pression des parents et des enseignants, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a autorisé 3 conseils scolaires de langue française non désignés à organiser un apprentissage à 50% en classe et 50% à la maison. Des effectifs de 30 élèves passeront ainsi à 15 pour des raisons de sécurité. Dans la deuxième heure, la recette de Babette de Rosière, Adieu France O, les tops de la chanson de l'été à Montréal, Québec, la visite de Madame Ledoux En direct de Saint-Malo, vous écoutez Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
And with 30 or 35 questions, the first questions are very easy. The last questions are much more difficult, like a memory question. It's like you'll go person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said, yeah. So it's person, woman, man, camera, TV. Okay, that's very good. If you get it in order, you get extra points. If you, okay, now he's asking you other questions, and then 10 minutes, 15, 20 minutes later, they say, remember the first question? Not the first, but the 10th question? Give us that again. Can you do that again? And you go, person, woman, man, camera, TV. If you get it in order, you get extra points. They said, nobody gets it in order. It's actually not that easy, but for me, it was easy. And that's not an easy question. In other words, they ask it to you, they give you five names, and you have to repeat them, and that's okay. If you repeat them out of order, it's okay, but you know, it's not as good. But then when you go back about 20, 25 minutes later, and they say, go back to that question, they don't tell you this, go back to that question and repeat them. Can you do it? And you go, person, woman, man, camera, TV. They say, that's amazing. How did you do that? I do it because I have, like, a good memory, because I'm cognitively there.
Time to show the whole world that America
is... RMC, Bourdin Direct, sur la route de la Maison Blanche.
Présidentielle américaine, Donald Trump peut-il encore gagner? Selon plusieurs analystes politiques, rien n'est joué pour la présidentielle américaine. Et oui, à quelques mois des présidentielles américaines, l'issue du vote reste encore incertaine, tant la crise du coronavirus et les émeutes raciales qui n'en finissent pas ont changé la donne et discrédité l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Face à lui, l'élu démocrate, Joe Biden, s'est constitué un électorat fidèle. L'élection présidentielle américaine serait-elle jouée d'avance? Donald Trump, grand maître de l'illusion, captive encore l'opinion publique et les médias. Malgré les enregistrements saignants de sa sœur et tous les scandales dévoilés par de nombreux et anciens membres de son équipe, Donald Trump règne en maître. Certains lui collent même à la peau l'étiquette « il est comme un gourou d'un culte ». Le président actuel est donc imperméable aux faits. Mais pourquoi? En suivant la lecture de la philosophe Chantal Delsol dans son essai « L'âge du renoncement », on pourrait dire que les partisans républicains ont renoncé à la quête de vérité pour préférer la recherche de l'utile. Selon Delsol, nous retournons de plus en plus à des sociétés où le vrai n'est plus l'objet ultime de nos investigations. De ce fait même, les mythes, récits, plus ou moins vraisemblables, se multiplient et prennent de l'ascension. Par exemple, Trump a-t-il vraiment fait reculer le chômage? L'Amérique sort-elle gagnante du bras de fer avec la Chine? Le mur avec le Mexique va-t-il régler le problème des clandestins? L'électeur trumpien se fiera au mythe que son président lui répétera jour après jour sur toutes les plateformes. Les faits rapportés par les grands médias ne sont considérés que comme des outils de manipulation de la caste politico-médiatique. Présidentielle américaine, Donald Trump peut-il encore gagner? Le débat est ouvert avec nos invités.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Eh bien, les duos sont constitués, les grands discours approchent, la campagne électorale américaine est toujours aussi passionnante et dans un contexte totalement inédit. Hier, Joe Biden a donc choisi sa colistière. Elle s'appelle Kamala Harris, sénatrice de Californie. Elle a 55 ans, origine jamaïcaine et indienne. Elle serait la première femme vice-présidente, première noire également, si Biden était élu. C'est une femme méchante, horrible et irrespectueuse, répond le camp Trump. Le président sortant reste à la traîne dans les sondages. Il traîne ses boulets également, au premier rang desquels sa gestion du Covid. Le cap des 5 millions de malades aux États-Unis a été franchi ces derniers jours. Plus d'un million de malades en une quinzaine de jours. Le chômage reste à un niveau élevé. L'effet de la mort de George Floyd n'est pas retombé. Alors quelle carte Trump, ce diable d'homme, a-t-il encore en main ? Élection américaine, Trump peut-il encore s'en sortir ? C'est le titre de notre émission ce soir. Nous attendrons vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Pour y répondre, 5 invités. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef de l'actualité internationale au Journal du Dimanche. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des États-Unis. Parmi vos ouvrages, il y a Géopolitique des États-Unis. C'est aux éditions Erol. Laurie Kenton, maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous avez notamment écrit « La fin du rêve américain » chez Odile Jacob, et vous publiez une chronique mensuelle sur la politique américaine dans le magazine Rolling Stone. Elsa Conessa, rédactrice en chef aux Échos, ancienne correspondante aux États-Unis. Et puis en duplex de Washington avec nous, Célia Belin, chercheuse invitée à la Brookings Institution et auteure de ce livre « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Donald Trump ». C'est chez Fayard, Fondation Jean Jaurès. François Clémenceau, comment analysez-vous le choix de Kamala Harris comme colistière de Joe Biden ?
Je dirais que c'est un choix raisonnable. C'est pas forcément le choix du cœur, mais c'est pour Joe Biden la possibilité, j'allais dire, de mobiliser son camp. Je crois que le calcul qui était le sien était de se dire, est-ce que je prends quelqu'un qui va aller séduire les électeurs républicains déçus par Trump, ou est-ce que je prends quelqu'un qui va remobiliser le camp démocrate pour avoir le maximum de mobilisation et de voix dans les urnes le 3 novembre. Et c'est vrai qu'avec Kamala Harris, il a justement cette possibilité-là, parce que même si elle n'est pas d'un État du Midwest, qui aurait été évidemment une tentation facile pour les électeurs de cette région, c'est une Californienne qui est un fief démocrate depuis des décennies, mais elle a un profil de centre-droit qui rassure une partie du centre du Parti démocrate.
Centre-droit ?
Oui, c'est-à-dire, c'est pas... Si vous voulez, parmi les autres candidates à la vice-présidence, dont la liste était connue, il y avait un certain nombre de profils beaucoup plus progressistes ou radicaux, comme on dirait aux États-Unis, notamment Elizabeth Warren, par exemple. Et je crois que le choix de recentrer et en même temps de prendre une femme de couleur est évidemment un très fort appel pour l'électorat afro-américain qui s'était démobilisé pour Hillary Clinton. Et ça lui avait coûté son élection. Et là, je crois que l'idée est vraiment de fédérer, de rassembler et de mobiliser. Et que Kamala Harris, 55 ans, presque, 22 ans de moins que Joe Biden, ça compte. Il y avait la possibilité d'avoir des candidates plus jeunes, beaucoup plus âgées. Il a fait le choix d'une femme d'expérience qui a l'avenir devant elle et qui pourrait évidemment lui succéder en cas de pépin, mais surtout... Après son premier mandat, elle a le profil de quelqu'un qui a à la fois de l'expérience, elle est allée au Sénat, c'est une ancienne procureure, c'est une ancienne ministre de la Justice de Californie, c'est quand même l'État le plus peuplé des États-Unis. Bref, ça fait quand même beaucoup de cartes en main, beaucoup d'atouts, mais attention, il y a aussi des handicaps, et ces personnes n'est à l'abri d'avoir des défauts, des handicaps, et on voit déjà comment les Républicains sont en train de l'attaquer. C'est vrai que vis-à-vis de l'électorat démocrate, sont passées de femmes dures sur le plan du crime, de la loi, de la justice, pourrait déconcerter une bonne partie de la jeunesse noire américaine qui, dans cette période troublée que l'on vit après la mort de George Floyd, pourrait estimer que c'est plus une policière qu'une indulgente.
François Clémenceau faisait référence à Hillary Clinton. On a, avec Kamala Harris, un profil beaucoup moins clivant.
Oui, c'est vrai que, comme le disait François Clémenceau, il y a un enjeu de mobiliser l'électorat africain-américain, mais aussi l'électorat féminin, qui a manqué à Hillary Clinton en 2016 et qui a pu la faire perdre à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix près dans certains États clés. Mais il y a aussi un enjeu de représentativité de la diversité de l'Amérique qui est incarné par Kamala Harris, et c'est un message très symbolique contre l'Amérique de Trump. Une Amérique plutôt patriarcale, blanche, fermée sur elle-même, qui refuse le multiculturalisme et qui ne prend pas acte des... de la diversité de l'Amérique et de l'évolution de l'Amérique. Et Biden, il a bien compris aussi qu'en 2018, aux élections de mi-mandat, il y avait un nombre record de femmes, et notamment de femmes issues des minorités qui ont accédé au Congrès. Donc il y a un élan à la fois de la part des nouvelles militantes, des nouvelles élues, mais aussi dans la population. Et les femmes diplômées du supérieur en particulier, vivant dans les banlieues résidentielles, c'est un électorat que Trump est en train de perdre et que les démocrates ont envie de mobiliser à plein.
Et qu'on cherche à capter comme ça. Femmes, 22 ans de moins, on le disait, que Joe Biden, métisse un peu plus à gauche. Ex-procureur général de Californie, première femme et première noire à occuper ce poste en Californie. C'est une colistière complémentaire ou c'est une colistière qui ressemble beaucoup à Joe Biden ?
Un peu des deux en réalité. Ouais. Un peu complémentaire parce que c'est ni un homme, ni une blanche, ni quelqu'un qui a 70 ans à Elizabeth Warren. Là, on aurait vraiment été sur la même longueur d'onde. Et en même temps, il y a quelque chose qui est relativement proche de Biden, c'est-à-dire c'est le choix le moins surprenant. C'est quelqu'un qui est modéré, qui est pragmatique, qui a pas une ligne idéologique très identifiée. C'est aussi ce qui lui a été reproché, que on sait pas trop sur quelle ligne elle est. Hein, c'est pas Bernie Sanders, c'est plus fluctuant parfois, et en même temps c'est plus modéré que certains autres, et donc c'est un spectre plus large, et donc de ce point de vue là c'est plus habile.
Elle lui apporte quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte à Joe Biden, Kamala Harris? Alors on a parlé de l'électorat féminin, qu'est-ce qu'elle lui apporte d'autre?
Il me semble que, clairement, sa couleur de peau. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je trouve qu'elle est quand même assez marquée politiquement. Elle est clairement pas dans la mouvance de la nouvelle gauche, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez,
Bernie Sanders, ouais.
Ou Bernie Sanders, mais elle est quand même effectivement un peu plus dure sur les sujets de sécurité. Elle est contre le démantèlement des géants de la tech, par exemple, ce qui est pas une position, une position facile en ce moment. Donc, ce qui est frappant, c'est que, il l'a choisi pour séduire un électorat qui a effectivement fait défaut à Hillary Clinton il y a 4 ans et qui avait permis la victoire d'Obama en 2012, en 2008 et en 2012. La question c'est est-ce que les minorités vont aller voter? C'est-à-dire, c'était le pari qu'avait fait Hillary Clinton il y a 4 ans, et en fait les minorités ne se sont pas déplacées. Est-ce que les Afro-Américains vont considérer qu'elle est l'une des leurs? C'est pas non plus évident parce qu'elle est indienne et jamaïcaine.
Absolument,
donc elle joue beaucoup
deux.
Sur cette carte-là, le passing, etc. Soi-disant, quand elle était enfant, elle a bénéficié des mesures pour sortir les enfants des banlieues noires pour les amener vers les écoles blanches, mais son père était prof à Stanford quand même. Donc, je suis pas certain que ce discours séduise complètement l'électorat afro-américain des Black Lives Matter.
Célia Belin, vu de Washington, ça suscite ce choix-là un enthousiasme au-delà des militants démocrates? C'est un moment important de la campagne?
Alors, je pense qu'il ne faut pas se tromper et mélanger la petite histoire et la grande histoire. Et la petite histoire, c'est qu'en effet, Joe Biden n'a pas fait le choix d'une candidate telle que Elizabeth Warren, qui serait davantage progressiste, qui serait le reflet des évolutions des démocrates sur les questions de société, les questions économiques. Mais après, la grande histoire, celle que l'on retiendra, c'est qu'en effet, c'est seulement la troisième femme sur un ticket présidentiel et surtout la première femme de couleur. Première femme de couleur métisse, non seulement noire mais métisse, de parents immigrés, et c'est également la première californienne. En fait, les démocrates n'ont jamais mis de Californien sur le ticket présidentiel, et elle reflète donc, comme l'a dit Marie-Cécile Nave, vraiment l'Amérique d'aujourd'hui, mais plus généralement, ce choix a ému profondément les Noirs américains, et en particulier les Noires américaines, dont on sait qu'elles constituent vraiment le cœur de l'électorat démocrate. On sait que c'est elles qui votent dans des pourcentages les plus élevés pour les démocrates. C'est vraiment cet électorat qu'il faut savoir mobiliser. Et on parlait à l'instant, François Clémenceau le disait, c'est un choix raisonnable. Oui, peut-être pour ce qui est de la politique économique, mais c'est vraiment surprenant que ce soit un choix raisonnable alors qu'il s'agit de mettre une femme noire sur le ticket présidentiel. Donc on voit que l'Amérique a profondément évolué, qu'elle est probablement prête pour une femme noire vice-présidente et peut-être un jour présidente. Il y a quelques années, on n'aurait pas dit que c'était un choix raisonnable. Et ça, c'est parce que, en fait, le courage de Joe Biden dans ce choix-là, c'est d'avoir dit qu'il allait finalement écrire la grande histoire parce qu'il se sentait en sympathie avec, en proximité avec Kamala Harris, parce qu'il considère en effet que peut-être une Elizabeth Warren était un risque économique, social, de caricature de la part de Fox News trop important et qui n'a pas voulu le prendre, mais aussi parce que il l'a dit, il est un président de transition qui souhaite transmettre aux futures générations un avenir, donc enlever ce parcours construit nationaliste, protectionniste, construit par Donald Trump et transmettre aux nouvelles générations un avenir différent, un avenir plus en reflet de la société américaine. Et par le choix de Kamala Harris, c'est ça que Joe Biden a démontré. Et je pense que sur le long terme, on se souviendra profondément de ce choix pour son courage et son potentiel de transformation.
Et on voit à l'instant, là, cette une de journal Yes We Can, allusion évidemment au Yes We Can des années Obama. Joe Biden avait promis de choisir une femme comme colistière. Son choix s'est donc porté sur l'ex-procureur général de Californie, Kamala Harris. Et le slogan côté démocrate, c'est « Rassembler l'Amérique ». Émilien David et Christophe Roquet.
L'annonce est directe.
You ready to go to work?
Oh my God, I'm so ready to go to work.
Au bout de la ligne, Kamala Harris réalise. Elle sera peut-être vice-présidente des États-Unis, choisie par le candidat Joe Biden. Une décision saluée par Barack Obama.
Elle est plus que prête pour ce poste. Elle a passé sa carrière à défendre notre constitution et à se battre pour les gens. C'est un grand jour pour notre pays.
Kamala Harris, ex-procureure de 55 ans, sénatrice de Californie, est réputée pour sa fermeté. Elle s'est fait remarquer l'an dernier par sa pugnacité lors d'auditions de proches de Donald Trump concernant les interférences de la Russie dans la dernière campagne présidentielle.
Quelqu'un à la Maison-Blanche vous a-t-il déjà demandé d'ouvrir une enquête sur qui que ce soit ? Oui ou non, monsieur ? Peut-être suggéré. Interféré ? Bref, vous ne savez pas.
Avant d'être l'allié numéro un de Joe Biden, Kamala Harris en était l'adversaire lors des primaires démocrates. Et elle ne retenait pas ses coups. Comme lors de ce débat où elle l'accuse de s'être opposée dans les années 70 à des mesures favorisant la mixité raciale.
Je ne pense pas que vous soyez raciste. Mais c'était blessant de vous entendre soutenir ceux qui ont fondé leur réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays.
En retard dans les sondages et en manque de soutien, elle renonce finalement en décembre dernier et décide de se ranger derrière Joe Biden, alors à la peine dans la course à l'investiture démocrate. Aujourd'hui, c'est la première femme noire à être désignée candidate au poste de vice-présidente des États-Unis. Un symbole fort dans une Amérique post-MeToo et post-George Floyd.
Une candidate qui soutient les valeurs de la communauté noire et nous représente là où nous en avons besoin, ça va nous aider à aller de l'avant. Je pense que nous avons besoin de diversité à la Maison-Blanche.
Un choix qui peut s'avérer stratégique. Car même si Joe Biden devance largement Donald Trump dans les sondages, sa campagne est minée par ses sorties polémiques sur les communautés noires et hispaniques. Des électorats clés pour les démocrates.
Si vous hésitez entre Trump et moi, c'est que vous n'êtes pas vraiment noir. Les gens ne le savent peut-être pas, mais contrairement à la communauté noire, la communauté latino est une communauté incroyablement variée, avec des attitudes très différentes sur beaucoup de choses.
Des dérapages et une image difficile à rattraper dans cette étrange campagne sous coronavirus. Sans meeting flamboyant.
Monsieur le Président, réveillez-vous.
Sans foule survoltée. Kamala Harris est-elle le nouvel atout démocrate ? Elle semble en tout cas être un danger pour les républicains qui réagissent avec virulence.
Biden se décrit comme le candidat de la transition, mais il donne les rênes à Kamala tout en se rapprochant de la gauche radicale. Joe le lent et Kamala l'hypocrite.
Un message approuvé par Donald Trump.
Elle ment. Elle a dit des choses qui n'étaient pas vraies. C'est une personne qui a raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui n'étaient pas vraies. Elle est très forte pour augmenter les taxes.
Le choix d'une vice-présidente a rarement été aussi important. Car à 77 ans, Joe Biden a déjà annoncé qu'il ne fera qu'un mandat s'il est élu. Kamala Harris serait alors la candidate toute désignée pour 2024.
Marie-Cécile Naff, que pourrait faire Joe Biden pour redresser l'Amérique que lui laisserait Trump? Alors j'ai retenu le Green New Deal, j'ai retenu qu'il veut augmenter les impôts. Quoi d'autre?
Vaste question. je crois que ça va beaucoup se jouer sur le style de leadership et la crédibilité aussi des États-Unis à l'international, certes auprès des marchés financiers, mais aussi auprès des grandes entreprises et auprès des gens qui investissent d'une manière générale aux États-Unis. Et donc, il y a des choses qui vont se passer du côté de la loi, évidemment, du côté de certaines mesures, du côté de certains décrets, executive orders. Ça va dépendre aussi de qui gagne le Congrès. Est-ce que au Congrès, la Chambre des représentants va rester démocrate? Ça semble bien engagé. Est-ce que le Sénat va passer côté démocrate? Ça semble beaucoup plus dur. Et à partir du moment où dans une Amérique qui est extrêmement polarisée entre les démocrates et les républicains, où vous avez besoin d'accord au Congrès pour mettre en place des lois qui peuvent avoir une incidence très importante sur l'ensemble du pays, eh bien c'est compliqué. Si le Sénat reste à droite avec un Joe Biden à la présidence, ils vont pas lui faire de cadeau.
Comment justifie-t-il les hausses d'impôts? Biden, comment justifie-t-il son programme de hausse d'impôts?
Il le justifie par le fait que les très grandes entreprises et les très aisés ont été vraiment beaucoup gâtés à part Trump. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les républicains l'ont suivi malgré tout ce qu'ils pensaient de lui pendant les 4 ans. Et donc c'est une injustice sociale, dit-il, pour la petite classe moyenne à laquelle Trump s'était adressé quand même pendant la campagne de 2016 et la promesse n'a pas été tenue.
La classe moyenne américaine, elle s'estime pas victime de la politique fiscale de Trump. Elle n'a pas souffert des hausses d'impôts, des baisses d'impôts, pardon.
Elle n'a pas été favorisée. Ça part du gâteau.
Oui, mais en fait, tout son discours sur la réindustrialisation du pays, c'était vraiment destiné à la classe moyenne blanche. Et ça, elle le suit comme un seul homme là-dessus, parce que les démocrates ne sont pas crédibles, en fait, sur ce sujet.
Oui, comme les promesses n'ont pas été tenues, elle est quand même un peu partagée.
Et pardon, François Clémenceau, proposer des hausses d'impôts, c'est risqué en une élection présidentielle américaine?
Quand vous promettez de taxer les plus riches, le 1%, mais pas uniquement le 1%, tous ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars par mois, c'est assez réconfortant pour la classe moyenne. Mais effectivement, Elsa a raison, cette classe moyenne qui n'a pas vu ses revenus augmenter depuis presque 20 ans maintenant, elle réclame sa part du gâteau, elle réclame sa part du rêve, elle réclame sa part de cette économie justement qui est si réactive et si capable de créer de l'emploi, de la prospérité. Elle réclame cette part-là. Elle ne l'a pas eue, elle a subi toutes les crises les unes après les autres et elle n'a jamais eu l'occasion véritablement de rebondir. La classe moyenne supérieure, oui. Les plus riches, oui. Les grandes entreprises, oui, avec ces déductions fiscales très très importantes. Mais la politique de Trump qui s'adressait à la classe moyenne, elle n'en a pas vu le résultat, si vous voulez. Donc c'est vrai, pendant 4 ans, elle a attendu et elle n'a rien eu. Ça ne veut pas dire qu'elle en a conçu énormément de colère à l'égard de Trump, mais c'est une impatience qui existe et c'est très difficile. Et après, encore une fois, il n'y a pas un seul démocrate, si vous voulez, qui fait campagne aux États-Unis pour qu'il y ait moins d'État, pour qu'il y ait une baisse de l'impôt qui va servir à des programmes fédéraux importants. On parle beaucoup de la reconstruction aux États-Unis, notamment dans les infrastructures qui sont catastrophiques. Là-dessus, il n'y a pas eu véritablement un boost d'un plan Trump quelconque. Donc oui, c'est une Amérique qui a besoin aujourd'hui, peut-être que les plus riches payent beaucoup plus, mais pas pour satisfaire qui que ce soit, à part les infrastructures qui sont criantes de décrépitude pour beaucoup dans beaucoup d'États. Et puis, on a parlé d'un mot de crédibilité. Il y a un problème de crédibilité, si vous voulez, et notamment à l'international. Joe Biden avait la possibilité, par exemple, de mettre sur son ticket une femme comme Susan Rice, qui, elle aussi, est une femme de couleur, qui a une grande expérience de politique étrangère. Je crois que s'il ne l'a pas fait, c'est précisément pour s'orienter et donner l'image qu'il veut s'adresser d'abord aux Américains de l'intérieur sur leurs problèmes, sur les problèmes de société et les problèmes économiques et sociaux, plutôt que d'avoir une femme compétente sur les grandes questions géostratégiques et géopolitiques, mais qui n'aurait pas pu combler ce sentiment d'être un peu abandonné par l'État.
Laurie Kenton, quel va être le rôle d'Obama durant la campagne démocrate, nous demande Marc dans les Alpes-Maritimes.
Obama est un petit peu en surplomb, c'est-à-dire qu'il est là sans être là. Il y a, disons, le spectre d'Obama qui plane toujours. Il faut pas qu'il soit trop présent parce que sinon il va un petit peu voler la vedette. Donc il faut qu'il laisse faire le numéro 1, c'est-à-dire Biden, la numéro 2, Harris, mais il est toujours là, c'est-à-dire qu'il y va de son petit tweet. Il y a une économie de la parole d'Obama qui est en contraste flagrant avec le déversoir ininterrompu de Trump. Là, on a vraiment une étude en contraste qui est absolument merveilleuse. Et la parcimonie de la parole d'Obama a une valeur, justement, là-dessus. Donc, il donne des messages. Parfois, quand il y a un peu de doute, il envoie un message d'approbation. Et donc, finalement, si Obama a dit que, c'est que c'est bien. Le fait qu'il ait appuyé tout de suite Kamala Harris, ça permet d'éviter que certains disent « Ah, mais Kamala Harris, elle est trop ceci, elle est pas assez cela. »
Oui, c'est une
je trouve Obama très présent sur les réseaux sociaux en particulier, et Michelle Obama aussi, et en particulier ils appellent au vote, ils appellent les jeunes à aller voter en disant c'est bien de manifester dans la rue, de dire votre désaccord par rapport à cette Amérique, des violences policières, du racisme, du climat, etc. Mais il faut que vous alliez voter. Et plusieurs fois par semaine, il appelle à cette mobilisation électorale par des canaux qui s'adressent aux jeunes, donc Instagram en particulier, sa fondation Obama, et puis via son épouse qui elle aussi a ses propres réseaux. Et
Michelle Obama sera la première à s'exprimer lundi prochain au démarrage de la convention de Milwaukee.
Joe Biden, Célia Belin, est-il favorable à une couverture santé universelle pour les Américains?
Alors Obama est
Joe Biden.
C'est un lapsus révélateur puisque on dit que Joe Biden, bien sûr, s'inscrit dans la continuité de Barack Obama, en particulier sur la question de la couverture santé universelle, puisqu'il souhaite construire à partir de Obamacare, rétablir les différents aspects qui ont été affectés par les législations républicaines qui sont passées et qui ont notamment enlevé cette obligation des Américains de prendre une couverture santé. Et donc ça, il va le rétablir. Il va donc construire à partir d'Obama, Obamacare, en espérant rétablir une universalité de cette couverture la plus large possible. Et ça, je dois dire, vous posiez la question tout à l'heure, savoir que va faire Joe Biden pour redresser l'Amérique. C'est un des points principaux, puisque, comme l'a rappelé François Clémenceau, on a deux aspects. On a d'une part les salaires qui ont stagné et qui ont stagné, par exemple, pour les hommes de la classe moyenne depuis pratiquement 40 ans, pas d'augmentation salariale. Et dans le même temps, les coûts qui ont explosé. C'est pas seulement les coûts du logement, mais c'est également les coûts de la santé qui ont fait x4 depuis les années 90. C'est les coûts des études supérieures qui ont extrêmement augmenté. Ce sont les coûts du logement, ce sont les coûts de la garde d'enfants. Aujourd'hui, la garde de deux enfants, et c'est pratiquement un loyer pour une famille.
Donc les coûts explosent dans tous les sens. Je dois vous couper parce qu'on arrive au terme de l'émission. On a compris il nous reste une question, François Clémenceau, la position de Kamala Harris sur des sujets tels que la peine de mort, l'IVG, le mariage homosexuel, les sujets sociétaux, disons.
Alors,
comme
elle est progressiste sur les droits des femmes, mais elle est conservatrice, mais elle est en même temps opposée à la peine de mort. Elle l'a longtemps prouvé, elle a très longtemps résisté, y compris à des élus démocrates en Californie pour ne pas imposer la peine de mort pour les crimes fédéraux. Mais elle a montré aussi qu'elle était très très dure sur le crime et donc elle est capable de prendre des mesures de grande punition extrêmement sévères, zéro tolérance pour les petits délits, les moyens délits et les délits les plus graves, notamment les délits financiers.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rediffusion ce soir à 22h40. Et pour le direct, je vous retrouve avec grand plaisir demain autour de 17h45. Excellente soirée sur France 5.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale.
sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Alors, je suis Babette de Rosière, chef, animatrice de télévision et auteur. Je suis tombée toute petite dans une bassine d'épices en Guadeloupe. Et puis, en plus d'être très gourmande, je mettais mes petits doigts dans tout ce que ma grand-mère cuisinait. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas appris la cuisine à l'école, j'ai appris la technique de la cuisine. Mais la cuisine, ça vient des tripes. Alors, mon parcours est simple. J'ai commencé par la télévision et ensuite, j'ai essayé de faire des petits plats pour mes copains et j'ai trouvé que c'était formidable et que c'est ce métier-là qui me revenait de droit. Donc j'ai cuisiné, j'ai fait des essais. Et voilà, je suis devenue chef de cuisine et j'ai travaillé partout dans le monde et maintenant pour Air France avec mon plus grand bonheur. Alors on va faire un petit gigotin de poulet aux épices douces avec des légumes croquants. Vous allez voir, c'est gourmand. Ma cuisine, je fais toujours une comparaison avec une belle fille. Elle est goûteuse, elle est sensuelle, elle est comme une femme, elle est colorée. Et quand on adopte ma cuisine, on ne peut plus la quitter. C'est comme ça que je la qualifie, ma cuisine. Elle est merveilleuse. Air France, c'est le monde. Donc ma cuisine, je l'ai adaptée pour que quel que soit l'endroit où Air France se pose, qu'on aime ma cuisine, qu'on l'apprécie. Et puis, il faut savoir qu'il y a l'altitude. Il faut savoir doser les épices et pas trop cuire pour que justement, quand on réchauffe, pour avoir les saveurs qui remontent, comme si on venait de les quitter du fourneau à l'assiette. C'est pour ça que j'ai adapté ma cuisine pour Air France, parce qu'ils font les choses bien. Un chef a envie de travailler avec Air France parce qu'il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour réussir correctement son petit plat et les faire déguster par les clients. En ce qui concerne l'outre-mer, c'est formidable parce que ça permettra justement aux passagers de découvrir la vraie cuisine de l'outre-mer. Dans l'assiette, on aura notre culture. Et quand on partira avec, Air France partira, s'envolera avec nos assiettes, et bien on verra que ça vient de l'outre-mer et c'est pour mon plus grand bonheur. Je vous souhaite un excellent appétit avec Air France et en créole, enfin du zot, bon appétit à dans notre soleil. Mais en a bon même, hein.
Oui, là nous sommes dans les Antilles, Guadeloupe plus précisément. Rebienvenue à Popo Richaud sur CUT 89,5 FM. Air France a ajouté une autre fonctionnalité au départ des Caraïbes. Vous venez d'entendre Babette de Rosière, célèbre chef de la Guadeloupe, ambassadrice culinaire des îles Guadeloupe, qui crée désormais 3 nouveaux plats pour les menus des cabines business et premium economy d'Air France. Le clip que vous venez d'entendre est une gracieuseté d'Air France et l'Office du tourisme des îles Guadeloupe. Et d'ailleurs, chaque semaine, nous allons découvrir les bons petits plats de Babette de Rosière à ne pas manquer. Après 22 années de diffusion, la chaîne France O a arrêté de diffuser le 24 août. À minuit. Désormais, plusieurs bandes annonces sont diffusées en boucle avant la coupure définitive du signal. C'est avec émotion que les Antillais, les Antillaises ont assisté au dernier spectacle émission de leur chaîne préférée dimanche soir dernier. Malgré les manifestations, les protestations auprès du président français Emmanuel Macron, qui avait pourtant promis la survie de cette chaîne, eh ben, c'est rien passé. Pour la chef Babette de Rosière, qui a notamment animé des émissions culinaires sur France O, il faut un observatoire des Outre-mer dans l'audiovisuel public qui formulerait des recommandations pour une visibilité plus forte des Outre-mer dans les ressources humaines, les visages à l'antenne et les contenus éditoriaux. Pour Babette de Rosière, cette disparition envoie un terrible symbole d'exclusion à nos compatriotes ultramarins. Il fallait réinventer France O plutôt que de la jeter, explique-t-elle. Très critique vis-à-vis de la chaîne dont l'ADN a été usurpé par des parachutés qui méconnaissaient la culture ultramarine, la diversité des sensibilités et qui la composait et dont les motivations étaient partisanes. Eh oui, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs quand on va en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin. Pourquoi, pensant, il n'y a que des Français qui sont à la tête des grandes entreprises, du gouvernement, de toute la fonction publique, gérée uniquement par les Français de France. Alors, je vous invite, madame, monsieur, à vous plonger avec moi dans les Antilles. Allez, on y va.
Les Outre-mer ouvrent nos horizons sur France Télévisions. L'aventure continue avec une offre de programmes toujours plus vaste. Un espace inédit dans le paysage audiovisuel français. Infos, culture, magazines, fiction, sport. De très nombreux rendez-vous pour une présence ultramarine toujours plus affirmée.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info Outre-mer.
Toute l'actualité de l'Outre-mer est à suivre sur France 3 dans l'Info Outre-mer, le rendez-vous incontournable du matin.
Merci de nous accueillir chez vous.
Dépaysement garanti.
Faire redécouvrir la Martinique et son patrimoine, c'était l'objectif du parc naturel en ouvrant les portes du domaine de l'Émeraude. Hier, plus de 1000 personnes sont venues flâner dans les allées.
On a une histoire qui est extraordinaire et c'est en l'expliquant, en raccrochant ce qui peut être un élément du folklore à un élément historique qu'on replace les choses comme ils font.
Sur France Info, dans Outre-mer Express, le journal tout en images. Au quotidien, dans les éditions nationales.
Avec 245 nouveaux cas positifs, la situation est inquiétante, surtout pour les plus précaires. Ce médiateur arpente ce bidonville de Cayenne pour apporter des colis alimentaires aux populations et les convaincre de rester confinés. Pas toujours évident.
Ils n'ont pas de travail, ils sont en situation irrégulière. Donc, vu la situation de la pandémie, ça aggrave leur situation.
Et sur le portail des Outre-mer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans oublier la météo des Outre-mer, tous les soirs sur France 2.
Direction Outre-mer, où là aussi nous allons retrouver quelques coups de tonnerre en direction de la Guyane ou encore de la Martinique. Plus de soleil vers Saint-Martin avec jusqu'à 32 degrés.
Première escale en Polynésie française. Tepoe nous a envoyé un message pour vous faire visiter son splendide jardin ensoleillé.
J'ai le plaisir de vous partager mon petit coin de paradis. Donc, il vient tout droit de Papeete. C'est un endroit qui me plaît beaucoup et où j'y passe beaucoup de temps le matin avant de partir au travail. J'aime faire un tour dans mon beau jardin qui se situe sur les hauteurs. Et j'aime apprécier la montagne, la nature, qui rejoint tout droit vers la mer, où on peut voir également la belle vue sur Papeete. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et comme on dit chez nous, nana.
Tous les matins sur France 3, des récits et des trajectoires.
À l'origine, j'ai décidé d'écrire un projet sur la migration de mon grand-père, sur son récit de vie personnel, essayer de comprendre pourquoi il avait quitté la Guadeloupe en 1974. Je me suis aperçue que ce qui me semblait être une histoire complètement personnelle était en fait la petite porte vers l'histoire collective des populations de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Réunion. Je cherchais vraiment une forme simple, mais qui ne dénature pas la nature complexe du propos migratoire. Et donc après avoir réalisé une douzaine d'entretiens en septembre 2015, je suis retournée en Guadeloupe donc, je suis retournée à Paris et quelques semaines plus tard, en prenant un couloir de métro, là je passe devant cette grande affiche 4x3 pour le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, deuxième plus grand festival de BD de France. Et là je me dis mais en fait ça pourrait être ça.
Les témoins d'outre-mer partagent leurs expériences, leurs projets et leurs réussites.
Les DOM-TOM, c'est quoi ? Ce terme n'existe plus. La France compte 12 territoires d'outre-mer. Il y a les DROM, comme la Guyane, les COM, dont fait partie Saint-Barthélemy, et la Nouvelle-Calédonie, à statut particulier. Pour résumer, il y a 5 départements et régions d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, le petit dernier depuis 2011. Les autres territoires ont un statut et des institutions spécifiques. Par exemple, les Polynésiens ont un gouvernement local. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un début d'autonomie politique et Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil territorial. Chaque territoire a sa particularité et son identité propre. Grâce aux Outre-mer, la France possède le deuxième espace maritime mondial. 2,7 millions de personnes ont la chance d'y vivre. C'est 4% de la population française. Vous le saviez ? Alors faites passer l'info.
Merci pour l'info. À demain, Néla.
Le quotidien de Maë, depuis près de 18 ans, aurait effectivement de quoi rendre envieux n'importe quel pilote.
Ah oh, bah alors, ma belle Nani. Et quasiment à chaque étape, en train de se dire, waouh, aujourd'hui c'est beau. Hier ça l'était, demain ça va l'être. Place cool.
Chaque décollage l'emmène vers une destination de rêve, à l'image de Bora Bora, la perle polynésienne.
On a les couleurs du lagon qui ressortent là, du bleu vert turquoise. Waouh, on est époustouflé. Limite, t'as pas envie de te poser, tu tournes puis tu regardes.
Toute la journée, dans des décors somptueux.
Merci à décollage.
Atterrissage et décollage se succèdent aux quatre coins du territoire.
La Guadeloupe, ce n'est pas qu'une seule île. C'est tout un archipel de noms qui font rêver. Les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, la Grande Île. Ici, le bleu et le vert se déclinent à l'infini. Mais c'est surtout l'ambiance qui m'a emporté le plus loin. Avec les cuisinières de Guadeloupe, par exemple, qui m'ont appris les bases essentielles de la bonne humeur antillaise.
Ça consiste en quoi de faire la folle exactement?
Faire la folle, par exemple, Nathalie danse. Je vais Nathalie. Oui, on y va.
Ici, dès qu'on exagère, on se fait immédiatement rappeler à l'ordre.
La Réunion, on sait que c'est une île dans l'océan Indien. On imagine les surfeurs, les plages. Mais on n'imagine pas ça. Un relief vertigineux, dantesque. La Réunion, c'est l'enfant de volcans puissants, de pluies ravageuses. Et la Réunion, c'est donc d'abord un choc.
On arrive les poissons!
La coutume, c'est une clé. On va ouvrir la porte.
Chez nous, il y a les deux mondes. Notre ancêtre, il est avec nous. Nuguet!
Ici, tout est gentil. Tout va venir te voir.
Le village préféré des Français revient sur France 3. Cette année, plus que jamais, après la crise sanitaire que nous avons traversée, je vous invite à découvrir 14 villages exceptionnels.
De nouveaux candidats vont vivre une aventure hors du commun.
Ça doit être eux là-bas, au milieu du chenal, là-bas.
Et pour 8 mètres d'honneur, vous allez chercher au pendant. Allez, les garçons!
Une fois par mois, en première partie de soirée, les magazines prennent le large sur France Télévisions. Et les fictions aussi.
Zakaria Bellem, officier de police judiciaire.
On va à l'Institut médico-légal. Oh, il est rentré dans le bain trop tôt.
T'es vraiment obligé de me faire chaperonner par ce mec.
Juliette, tu poules, ok?
Je n'aime pas votre ton condescendant. Je suis votre supérieur, merci de ne pas l'oublier.
Bonjour, Mélissa Saint-Rose, votre nouvelle commandante.
Enchantée. Bienvenue en Martinique.
Merci.
Alors vous avez de la chance pour une première scène de crime, c'est super beau.
Qu'est-ce qu'elle faisait dehors à 2h du matin?
Je sais pas,
boire, danser. C'est pas comme ça, Paris?
Je te présente Gaëlle Crivelli, ma collègue.
C'est elle, la dingue?
Mais vous êtes complètement folle!
Elle m'a énervée aussi, là.
Elle est toujours comme ça ou j'ai le droit à un traitement de faveur?
Vous vous habituerez.
Jeudi sur France 3, documents, découvertes, rencontres, portraits. De la Guyane à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie, de Wallis à la Polynésie, en passant par la Martinique et la Guadeloupe, on ne quitte jamais des yeux la ligne bleue outre-mer.
Je pense que si on arrive à nourrir les gens, eh bien, y a pas un plus beau métier que ça.
On allait quand même au bal, hein. Ils venaient quand même. Mais j'avais toujours des copains pour danser. Hein. Mais ils dansaient pas, mais ils aimaient bien écouter la musique. Ils venaient quand même. Hein.
Il ne devait jamais déménager pour une fille. Il ne devait jamais quitter un boulot pour une fille. Et il a fait tout ça pour moi.
56 ans de mariage, il n'y a pas à se plaindre, quoi. Il y a sûrement mieux, mais il y a sûrement pire aussi. Hein.
Et ça, déjà, ça m'avait impacté.
Tous ensemble, nous tenions donc à vous remercier pour votre fidélité durant toutes ces années. Une pensée émue pour tous ceux qui ont fait vivre cette édition, qui l'ont enrichie avec leurs reportages, qui sont passés sur ce plateau ou en régie, entre autres Karine Zabulon, Nathalie Nouzière, Elias Hakoun, Vincent Le Faller. Nous vous souhaitons tous ensemble un très bel été et puis à bientôt.
Très bonne soirée.
Bonne soirée. Je ne ferai pas de commentaires.
Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir suivis.
Salut France Pro. Bye bye. Ciao.
Vous pourrez désormais retrouver l'information ultramarine sur les autres chaînes du groupe et sur le nouveau portail des Outre-mer qui s'est ouvert le 1er juin.
24 heures sur 24, les équipes se relaient en Guyane, Martinique, Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie ou à Wallis et Futuna, pour connecter les ultramarins de cœur, les ultramarins tout court.
Sur ce portail, ils doivent être un peu chez eux, avoir leurs repères, savoir ce qui se passe dans le pays, mais également être en mesure de pouvoir voir, revoir, découvrir à travers des documentaires et des magazines.
Mais depuis 4 ans, l'information ultramarine a déjà pris toute sa place sur France Info, sur le canal 27 de la TNT, un ticket pour découvrir, apprendre, comprendre, s'envoler, s'évader. Thank you. Attention au départ, l'Outre-mer Express passe tous les jours, 3 fois par jour.
C'est des petits modules de 3 minutes qu'on envoie à la chaîne Info sur l'expression des Outre-mer, un peu sur la culture, l'environnement, le social, voilà. Ça nous permet de voir un peu ce qui se passe en Outre-mer et de faire une petite synthèse de tout ça.
L'info Outre-mer qui se fait encore plus belle depuis septembre dernier sur France 3, avec un nouveau rendez-vous tous les jours à 11h35 du lundi au vendredi, un tour d'horizon et de la planète en 360 secondes chrono.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'info Outre-mer.
Ah, c'est un sacré défi, en 6 minutes parler de tous les Outre-mer c'est un peu particulier, mais après c'est vrai qu'on prend le rythme et on se dit on va prendre l'essentiel, et puis raconter un peu à la France hexagonale comment ça se passe chez nous.
Prendre le large, plonger au quotidien dans les 3 océans, porter un autre regard sur tous ces territoires. 5, 4, 3, 2, 1. Bref, aller plus loin, voir plus grand, tout simplement.
Comprendre où on est, etc. Le monde, c'est le monde. C'est-à-dire que là, on ouvre de département, on ouvre sur le monde. C'est vraiment ça.
Et le voyage est loin d'être terminé.
C'est bon. Désirless voyage. Et oui, on voyage beaucoup tous les matins sur les ondes de la première. Il est tout juste 6h30.
Écoutez bien, France Télévisions a déposé un dossier pour décrocher une fréquence sur la RNT, la radio numérique terrestre, et pourrait commencer à émettre dès janvier 2021. Alors, à très bientôt aussi sur les ondes.
Oh, bisous.
C'était notre dernier journal. Toutes les équipes de Franceau vous disent du fond du cœur un grand merci pour votre fidélité. Au revoir.
Tabou Combo fête ses 50 ans de carrière, un demi-siècle d'un métissage musical unique qui a accompagné des générations de Haïtiens, Martiniquais et Guadeloupéens entre autres.
Tabou Combo, c'est un groupe qui fait danser les gens, qui leur fait oublier leur déboire. Tabou Combo, c'est un groupe de fête. Donc, c'est ça le message qu'on a. C'est ça Tabou Combo. C'est exporter les Antilles, notamment Haïti, au reste du monde.
Tabou Combo, fondé en 1967 à Pétionville, au sud de Port-au-Prince, un groupe mythique qui allie le rythme haïtien du compas à la rumba congolaise, au rock, voire au funk. Et c'est avec ce titre New York City que le groupe se classe en tête des hit parades en France et en Afrique en 1974. Que le sujet soit grave ou léger, la priorité pour Tabou Combo, ces messieurs ambassadeurs du compas, comme ils se surnomment, c'est leur public.
C'est une euphorie de servir, un plaisir de servir, et une responsabilité aussi, parce que notre philosophie, on dit toujours que le groupe ne nous appartient plus. Le groupe appartient au public.
En 50 ans de carrière, plus d'une trentaine de musiciens sont passés par Tabou Combo. Restent aujourd'hui 4 membres originaux, dont Herman, Fanfan et Choubou, la voix principale du groupe.
Merci, parce que c'est grâce à vous que nous avons pu arriver à nos 50 ans. On vous aime, on vous aime, on vous aime beaucoup. Merci.
Mes amis, bonne nouvelle pour nous, pour tout le monde qui comprend dans la vie.
Et pour voir le Tabou Combo, rendez-vous en Guadeloupe le mois prochain, au Canada et en Belgique au mois d'août.
ceux qui sont assis, que vous vous mettiez debout. Ceux qui sont assis au fond, mettez-vous debout. Ceux qui sont au fond assis.
Radio partenaire de RFI.
CIUT 89.5 Toronto.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. Si vous vous inquiétez d'avoir été exposé au virus, faites faire une analyse. Respectez l'écart sanitaire et lavez-vous les mains fréquemment. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire, Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute,
a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Chaud. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Chaud et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
The reason we could never be who we wanted and dreamed of being is you kept your knee on our neck. We were smarter than the underfunded schools you put us in, but you had your knee on our neck. We could run corporations and not hustle in the street, but you had your knee on our neck. We had creative skills. We could do whatever anybody else could do, but we couldn't get your knee off our neck. What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Chaud sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Chaud, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Chaud en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrichaud.com. Popourri Chaud, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Yeah,
Bonjour madame, c'est les affaires sociales de la mairie de Trélot-sur-Marne, pareil. Nous vous appelons pour savoir si vous étiez au courant de l'existence de mademoiselle Germaine Ledoux, qui est une ancienne Miss France 1938.
Non, ça ne me dit rien.
Bon, alors là donc je vais vous la passer parce qu'elle veut parler à des femmes, donc je me permets de vous la passer, quoi.
Oui.
Merci. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Mademoiselle Germaine Ledoux à l'appareil.
Oui.
Miss France 1938.
Oui.
Vous n'avez pas oublié.
Oh, vous savez, hein?
Oui.
Ah oui.
Oui,
je sais.
Vous savez quoi, comment c'est, hein?
Oh oui.
Oui.
Oh, ben, moi, c'est pareil, hein?
Ah oui.
Ah, ben, maintenant, c'est fini, hein?
Oui, hein?
Quand je dis ça, c'est à propos de moi.
Mais vous savez, moi, je ne suis pas... je ne suis pas...
Ah non, ben, j'ai pas dit ça, hein?
Non.
J'ai jamais dit que vous étiez...
Non.
On peut pas dire?
Non.
C'est parce que sinon...
Non, mais vous savez, hein...
Oh là.
Ah, c'est vrai, hein?
Oh, c'est plus que vrai, c'est sûr.
Ça, c'est vrai, hein, mademoiselle, hein? C'est tout pareil, hein?
Oh là!
Ah oui.
Je sais pas si vous êtes comme moi.
Ah non.
Ah, vous êtes pas comme moi?
Ah non!
Oh!
Mais je ne sais pas dire...
Ah, bah non!
Non.
Enfin...
Ouais, enfin, c'est...
Ah, ouf. Oh là.
Ben oui.
Comment qu'on peut dire...
Je ne sais pas, hein. On ne sait pas comment dire, hein.
Oh non.
Oh non, vous savez.
Ouf. C'est difficile.
Ah oui, ça c'est vrai.
On ne sait pas si vous... Si. Non.
Ah, je ne sais pas, vous savez.
Oui.
Non.
Ah non. Oui, bon. Bon, je vous passe le monsieur, hein.
Oui.
Merci. Allô?
Allô, monsieur?
Oui, alors, ça s'est bien passé?
Oui, mais vous savez, je suis comme...
Oui?
Oui, c'est pareil, hein.
Ah bon.
Miss France, 1938.
Oui.
Vous n'avez pas oublié.
Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre petit voyage intercontinental. J'espère que cela vous a plu. Ici Eric Kader, je vous donne rendez-vous bien sûr chaque dimanche. Nous sommes toujours créatifs, même si nous sommes en vacances et loin de la ville reine, loin de Toronto. J'espère que tout va bien chez vous. Il y aura pas mal de nouvelles chroniques, de nouveaux collaborateurs à la rentrée. Soyez au rendez-vous. Je rappelle que si cela vous intéresse, nous allons vous présenter de temps en temps des sondages pour savoir un peu les courants, les enjeux de l'heure, que ce soit au Canada ou encore à l'étranger. Vous désirez donc être au courant des derniers résultats, des sondages liés peut-être à la crise Covid-19, les grands enjeux de l'heure au Canada et dans le monde. Je vous invite à vous abonner à notre infolettre. Et vous aurez les derniers résultats de tous les sondages. popourri@cut.fm. Faites vite. La maison de sondage Léger, justement, est un chef de file de la recherche en affaires publiques et en communication au Canada. Voici en vrac les derniers résultats rapides des derniers sondages. Léger et Léger. Retour en classe en temps de pandémie. Répondant avec des enfants d'âge scolaire, 44% des Canadiens et 39% des Américains disent que leurs enfants sont nerveux et anxieux à l'idée de retourner à l'école. Ouais, c'est beaucoup, hein? Et oui, et quoi d'autre encore? 41% et 46% disent respectivement que leurs enfants sont enthousiastes et impatients. 66% des Canadiens et 72% des Américains sont inquiets de voir les enfants retourner à l'école à la fin de l'été. Et enfin, le retour en classe est nettement privilégié par les parents d'élèves, selon les différents sondages communiqués par plusieurs conseils scolaires ontariens. Les élèves franco-ontariens penchent vers la présence en classe. Au début du mois d'août, la Maison Léger et Léger a mené une enquête auprès des Américains sur leurs intentions de vote pour la prochaine élection présidentielle. Le sondage explore également les perceptions des Américains envers le Canada. Désireuse d'évaluer les connaissances et perceptions, attitudes, croyances, préjugés des Québécois à l'endroit des Premières Nations au Québec, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a mandaté Léger pour qu'elle conduise un sondage en ligne auprès des Québécoises et Québécois non autochtones. Résultat, 9 Québécois non autochtones sur 10 pensent que les Premières Nations font l'objet de racisme et de discrimination au Québec, ne serait-ce que rarement. 91% des répondants pensent que l'État québécois a un rôle important à jouer dans l'attente et dans l'atteinte et le maintien de l'égalité entre les Premières Nations et les Québécois non autochtones. Sondage CROP, reprendre la vie d'avant, passer vite pour beaucoup. Et oui, au moment où les gouvernements ouvrent les dernières vannes du déconfinement, les Canadiens sont encore prudents face au coronavirus, à tel point qu'ils ne retourneront pas en grand nombre à certaines activités qui faisaient partie de leur quotidien, comme aller dans un bar, au gym ou encore au voyage, en voyage, jusqu'à qu'on trouve un vaccin contre la COVID-19. Et oui, en ce qui concerne le cinéma, les salles de spectacle, seuls 19 et 18% des répondants indiquent qu'il est ou très probable qu'ils s'y rendent, contre une très large majorité de répondants, 81 et 82%, qui n'iraient pas du tout dans les salles de spectacle ou au cinéma. Le télétravail a été une des grandes découvertes de la pandémie. Les gens ont découvert que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de raison d'avoir des pertes de temps de 10 à 15 heures par semaine dans le trafic. Il y a clairement une volonté de reprendre le contrôle de leur vie. Sondage auprès de la jeunesse francophone du monde, lancé par l'Organisation internationale de la francophonie il y a quelques mois. Voici un message que nous avons reçu de l'OIF. C'est dans l'émotion que la consultation francophonie de l'avenir a pris fin le 27 juillet 2020 à minuit. Pendant plus de 2 mois, vous avez porté votre choix auprès de la francophonie. Vous nous avez partagé vos souhaits, vos idéaux, vos ressentis, vos rêves. Merci à vous, jeunes francophones, pour votre participation enthousiaste, votre engagement et la profondeur de vos contributions. Merci aux acteurs de la Charte de la francophonie, à l'ensemble de nos partenaires, ambassadeurs et aux acteurs de la société civile qui nous ont accompagnés pour la réussite de cette démarche. Un rapport approfondi sera également bientôt publié. Restez connectés sur les réseaux sociaux de l'Organisation internationale de la francophonie et nous aurons bien sûr le bonheur et le grand plaisir de vous partager les grandes lignes de ce rapport très prochainement. Je veux aussi remercier Maître Peter Bureau d'avoir été là, Chantal Avéchambre, un grand merci, DJ Devera à Toronto, Babette de Rosière, qui sera de nôtre de temps en temps, Madame Ledoux, nouvelle collaboratrice. Je vous laisse avec le top de la chanson francophone au Québec en ce moment, Émile Bilodeau, Échec et Mat, vidéo, clip qui vient de sortir. Le très jeune Québécois Émile Bilodeau fait partie de ces petits piliers qui se dressent durant la crise actuelle, afin de mettre un peu de baume sur l'isolement, l'inquiétude ambiante. Émile Bilodeau vient de lancer l'échec et mat, extrait de Grandeur mature, un grand sur les ondes de CKOI à Montréal. En deuxième position, Les pieds dans le vide, interprété par Simon Morin, extrait de l'album Ébène. Une version anglaise sur Les pieds dans le vide existe depuis quelque temps. Il est très actif sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie. Simon Morin, un nom à retenir, madame, messieurs. J'aime bien savoir, il vient de lancer Running Out, une version anglaise de son extrait radio, Les Pieds dans le Vide. De plus, il aura l'occasion de présenter les pièces de son dernier album sur scène grâce au spectacle de TD Music Park, TD pour la banque Dominion, Music Park présenté par Vidéotron. Et enfin, pour le dessert, Tabou Combo, live au Zénith à Paris lors de son 50e anniversaire. Et oui, je vous souhaite santé, bonheur, prenez soin de vous, que la force soit avec vous.
Oh Sammy, passe-moi la guerre, faut se battre avec nos frères, je sais pas à quoi ça sert, ça ne date pas d'hier. Qu'on subit la défaite, mais maudit, j'aime les échecs. Partout. Oh, ça dépasse, moi, la guerre. Faut se battre avec nos frères. Je sais pas à quoi ça sert. Ça ne date pas d'hier. On subit la défaite. Même aussi, j'aime les échecs. Yeah. L'autre fois, j'ai vu le roi rocker avec sa tour. Faire du rock comme il se doit pour une tournée de quelques jours. Mais la reine s'ennuyait et quelques semaines après. Se rendre, car elle s'en fout de se faire prendre par le fou.
Mais on l'a jamais revu.
Tout le monde la savait disparue. Oh, ça dépasse, moi, la guerre. Faut se battre avec nos frères. Je sais pas à quoi ça sert. Ça ne date pas d'hier. Qu'on subit la défaite. Mais bon, tu sais que j'aime les échecs. Je pensais que sa game était finie. Mais voilà qu'un pion arrive à destination. Et en pleine transformation,
la reine revient pour de bon.
Et plus jamais sur la map on a entendu échec des maths.
Radio partenaire de RFI. Chaque semaine, écoutez les magazines de RFI.
Point s'allume sur l'écran radar. Et j'ai comme une plume d'une œuvre d'art. Ralenti, l'élan m'impose son rythme défini. Retour aux origines, l'instinct domine. Ma tête carbure à plein régime. Vivre l'inconnu, soir après nuit. Les pieds dans le vide et le reste qui suit. Mais solide comme un phare en plein orage, incorrigible devant ma confiance, aucun souffle pour l'indépendance. Retour aux origines, l'instinct domine, ma taille carbure à plein régime. Vivre l'inconnu, soir après nuit, les pieds dans le vide et le reste qui suit. paralyser le monde. J'en perds tous mes moyens. Je vois au-delà du destin. La foudre qui m'emporte, je danse au rythme de ses mains.
RFI en Amérique du Nord.
Aisha, 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 Ais ¡Suscríbete!